Je nous propose de lire ce matin un court passage des paroles de Jésus. On va simplement le vivre en trois temps. D'abord, nous allons le lire lentement, à voix haute. Certains parmi nous pourront commencer à lire un verset, puis un autre, puis ou une phrase, puis une autre. Une fois, deux fois, trois fois. Puis on le lira chacun personnellement, pour soi-même. Et troisième temps, nous partagerons brièvement une idée, une chose qui nous marque dans ce qui est affiché, dans ce qui est lu. On ne réagit pas forcément sur ce que le frère ou la sœur a dit, on écoute simplement, on laisse partager. Il n'y a pas d'obligation à dire ce qu'on a sur le cœur, mais ce serait dommage de ne pas faire profiter nos frères et nos sœurs. Seigneur, te prions simplement que tu puisses nous parler à travers ta parole. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous réjouir dans ce que tu as dit. Et nous voulons découvrir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, encore des choses nouvelles ce matin. Béni sois-tu. Le passage que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Je vais commencer à lire le premier paragraphe, puis après je vais donner le micro à quelqu'un pour lire le second, et puis etc. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
On reprend.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendront-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, perd son goût, avec quoi va-t-on lui rendre ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on le met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Je vous propose qu'on le lise personnellement encore quelques instants, à voix basse ou en silence. Pour ceux qui veulent le lire dans leur Bible, c'est Matthieu 5, versets 13 à 16. Je vais commencer, et puis ceux qui voudront intervenir seront libres. Si je suis le sel de la terre, mais que je perds ma saveur, alors je ne sers plus à rien. Et je ne sers plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Quelqu'un a une chose qui l'a interpellé et qu'il aimerait partager ?
Moi, je vois qu'il y a quatre éléments. Il y a le sel et la lumière, et il y a deux lieux, la maison et dehors les hommes. Donc le sel et la lumière peuvent servir dans notre maison et aussi dehors, devant les hommes.
Moi, c'était sur le sel, sur la perception qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, le sel, c'est, on s'en sert un peu de condiment pour assaisonner. Mais à l'époque, il y avait vraiment une notion de quelque chose de précieux. Le sel, c'était une des seules choses qu'on avait pour conserver les aliments. Et c'est aussi de là que vient le mot salaire, parce qu'on pouvait payer les ouvriers avec.
J'avais jamais vraiment pris conscience qu'il y avait deux sens qui étaient évoqués là-dedans, le sel avec le goût et la lumière avec la vue. On donne du goût et on donne à voir en même temps.
Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. C'est formidable, hein, quand on se regarde dans la glace et qu'on peut dire « Ah, ma belle manière d'agir !» Tout le monde la voit. Ah, c'est formidable. Et qu'ainsi, Ils célèbrent, non pas Marie-Jo ou Pierre-Antoine ou François, mais la gloire de votre Père céleste.
Moi, ça m'amène plus une interrogation. C'est quoi la saveur ?
Oui, ben je continue sur cette dernière pensée avec le sel. Le sel donne du goût, mais c'est sûr que si c'est trop salé, on le recrache. Et on nous a trop souvent recraché, on est extrémiste. Vous voyez, dans notre monde post-chrétien, on a voulu enlever le goût. Pas trop de sel, il ne faut pas trop dire, il ne faut pas trop parler de notre foi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens ne réalisent même plus la valeur de l'évangile et ils nous piétinent. Donc il faut qu'on ait du sel et qu'on le donne, peut-être pas trop en effet, mais quand même qu'on garde du sel, sinon notre civilisation actuelle, l'Église ne veut plus rien dire. C'est, même la religion, on n'a même plus de respect. Donc il faut garder notre foi, il faut manifester notre foi. Sinon, on nous piétine. Et alors qu'on voulait ne pas blesser, ne pas choquer, et bien c'est le contraire, les gens ne nous regardent même plus.
Il y a deux affirmations. C'est une affirmation, vous êtes le sel de la terre. C'est une affirmation aussi, vous êtes la lumière du monde. Mais par contre, on voit qu'il y a un « mais » et un « si », hein, je crois, où, enfin, vous êtes la lumière du monde. Attendez, c'est pas un « mais » et un « si », mais on va dire il y a deux « mais ». C'est-à-dire, vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes la lumière du monde, mais on n'allume pas donc une lampe pour la mettre sous un seau. Ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'on peut perdre notre saveur ? Et est-ce que cette lumière, elle peut être, non pas éteinte, mais affaiblie parce qu'elle est quelque part cachée ?
Alors, moi, je voulais dire dans ce sens, c'est que le sel est un ingrédient très capital dans un repas. Alors, un repas sans le sel est à proximité de la poubelle, parce que c'est compliqué de manger un repas sans le sel, excepté ceux qui ont peut-être des problèmes de santé. Par contre, la lumière est un guide dans le noir. Sans elle, on reste statico, et c'est compliqué pour avoir des repères dans le noir. Maintenant, la conclusion, c'est que tout produit répond aux besoins de son fabricant. L'homme étant le produit de Dieu, celui-ci est appelé à répondre aux attentes divines. La question qui reste sans réponse, qu'est-ce que Dieu attend de nous ?
Merci. Moi, je vois dans le premier passage sur le sel et sur la lumière également, c'est que notre nouvelle nature, on doit la préserver. Parce que si on perd un peu notre nouvelle nature, notre foi en qui on est, bien, on risque d'être foulé aux hommes. Donc pour moi, c'est un encouragement à rester qui on est en Christ. Et pour la lumière, c'est pareil. Si je suis sous un boisseau, je ne suis pas heureux. Donc, je dis que Jésus nous dit, vous pouvez vivre autrement parce que vous êtes sel et lumière. Et ne perdez pas votre nature, parce que sinon, vous allez mal vivre. Et je trouve que c'est très encourageant.
Deux choses. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et ailleurs, il dit que je suis la lumière du monde. Donc ce ne sont pas deux choses contradictoires, mais ça ramène à ce que le frère partageait tout à l'heure, que nous sommes maintenant le tabernacle de Dieu sur la terre. Donc le Seigneur en nous est la lumière du monde, et parce que nous avons le Seigneur en nous, nous sommes la lumière du monde. Donc le Seigneur et nous, on est indissociables l'un de l'autre. Donc ça, c'est très puissant, je trouve. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous dit « afin que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et non pas de parler. » Donc nous brillons non pas parce que nous disons et que nous faisons des discours ou que nous avons des déclarations, mais à cause de notre façon d'être et de nous comporter. Et c'est ça, les bonnes œuvres qui brillent et que les hommes peuvent voir et grâce auxquelles ils vont rendre gloire à notre Père Céleste.
Moi, je trouve que faut qu'on ait hyper confiance en nous et beaucoup d'audace. Enfin, on sent que y a un appel fort et il faut qu'on soit fier et qu'on assume, quoi.
Oui, le vous êtes et le je suis sont liés. Ce que disait le frère, et c'est ce que j'ai. Depuis ce matin, cette question de notre identité en Christ, je suis, c'est pas rien dans la Bible, je suis. Dieu dit je suis celui qui est, parce qu'il ne s'enferme pas dans une conception. Jésus va dire oui, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la porte. Et nous, quand on dit je suis, à quoi est-ce qu'on pense? Ce matin, j'ai pas salué les gens parce que j'ai dit je suis malade. Et on m'a repris. Et merci de m'avoir repris, parce que ce n'est pas ce qui m'identifie. Je ne suis pas malade, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas pauvre. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis son fils, je suis sa fille bien-aimée, je suis son héritier. Et oui, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Et merci Seigneur vraiment de nous faire prendre conscience de cette identité de qui on est. De qui on est. Et attention de comment on peut parler de qui on est dans le monde, parce qu'on va être celle de la terre et lumière du monde si en effet on a vraiment cette conviction qu'on l'est réellement. Et ce que disait le frère aussi, c'est cette manière d'agir, c'est cette manière d'être qui sera un vrai témoignage pour célébrer la gloire de notre Père Céleste. Ouais. Amen.
Merci beaucoup. J'aimerais juste qu'on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il vient de nous révéler. Peut-être qu'on connaissait déjà certaines choses. En tout cas, ça nous rafraîchit. Et je me réjouis de voir ce que le Seigneur dit à chacun et dont nous pouvons aussi nous nourrir. Je veux simplement qu'on puisse remercier le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour la joie de voir, et je vais ouvrir les yeux en faisant cette prière, de voir en mon frère, en ma sœur, ton esprit qui vit dans mon frère et dans ma sœur, la présence même de Dieu qui vit dans mon frère et dans ma sœur, et qui me permet d'être au bénéfice de ce que toi, tu as aussi à me dire à travers mon frère et ma sœur. Béni sois-tu, Jésus. Ce matin, j'avais un petit plan, un petit projet, mais il est 11h36 et je vais nous épargner des chaises musicales. Mais je vais quand même un peu vous chahuter ce matin. Donc je me rapproche de vous le plus possible. Il semblerait que la limite, ce soit la moquette. Au-delà, je ne sais pas si je suis autorisé à mettre le pupitre. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelle Tom Wright, qui est un théologien anglican assez, assez renommé, qui a édité des petits fascicules très sympathiques, des guides bibliques pour tous. Et j'aimerais en fait simplement que ce matin, on puisse ensemble lire un texte et se poser des questions. On a commencé avec ce texte, cette parole de Jésus dans Matthieu 5, mais j'aimerais qu'on regarde autre chose qui sera liée, mais un peu différent quand même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ce que dit Paul à Timothée. Timothée, fils spirituel de Paul, et qui avait la charge de l'église d'Éphèse. Et il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Mais il lui dit aussi, ne néglige pas le don qui t'a été fait. Mais il lui dit aussi, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. La lettre à Timothée est une lettre qui est pleine d'instructions, très pratiques. Se consacrer à la lecture publique des Écritures, prédication et enseignement, ne pas négliger le don qui t'a été fait, et veiller sur soi-même et sur son enseignement, finalement, ce sont trois éléments qui sont essentiels. Et ce sont parfois justement ceux qu'on a tendance à négliger quand on est sous pression. Et j'ai une question donc à vous poser. Comment réagissez-vous à l'idée de veiller sur vous-même? Est-ce que j'ai de la joie? Ah yes, je vais veiller sur moi-même. Est-ce que finalement, ça m'embête un peu? Parce que j'ai envie de faire un peu ce que je veux. Veiller sur moi-même, est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Naturellement, comment est-ce que je réagis à l'idée de veiller sur moi-même? Spontanément. C'est pas négatif du tout, c'est au contraire. C'est comme si je me protégeais, c'est une sorte de protection. C'est salutaire. Je prends soin de moi. Je garde mon cœur. Intéressant. Dis donc, vous êtes des super disciples de Jésus, alors. Non, mais c'est encourageant. Veillez sur soi-même. Je vous propose qu'on lise 1 Timothée 4. Je vous propose simplement qu'on puisse le lire. Est-ce que quelqu'un veut le lire parmi nous? Est-ce que quelqu'un a sa Bible et a envie de lire 1 Timothée 4? Merci.
Je lis dans la version Parole de vie. L'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage, ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement, mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C'est là une parole sûre qui mérite d'être reçue par tous. Oui, nous travaillons durement et nous combattons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur de tous, surtout de ceux qui croient. Voilà ce que tu dois commander et enseigner. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant ma venue, applique-toi à lire les livres saints, aux chrétiens, à les encourager, à les enseigner. N'oublie pas le don de l'Esprit-Saint qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Fais tout cela avec grand soin. Donne-toi ce travail entièrement. Alors tous verront tes progrès. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent.
Merci. Comment Paul décrit-il ce qui arrivera à la fin des temps ? Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Par l'hypocrisie de discours, de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Qu'est-ce qui arrivera à la fin des temps d'après Paul ? Quelqu'un veut réagir ? Des gens abandonneront la foi, apostasie, fausse doctrine. C'est du sérieux. Selon vous, que veut dire l'apôtre quand il écrit que la conscience des faux prédicateurs est comme marquée au fer rouge ? Ça se verra. Ça se verra. Elle est anesthésiée, la conscience. Donc finalement, c'est des personnes qui s'enlisent dans leur fausse prédication parce que leur propre conscience a été anesthésiée. Pourquoi Paul dit-il que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant ? Au verset 4 et 5. Pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Oui ? Oui, on peut réagir, il n'y a aucun souci. On peut revenir sur la question d'avant. Ah ! Donc il est conscient, ça serait l'interprétation du coup, qu'il serait conscient de son erreur, mais qu'il continue malgré tout. Esclave, marqué au fer rouge aussi comme un esclave. Surtout que c'est indélébile. L'idée de marquer au fer rouge, souvent c'est que sur cet endroit qui était marqué au fer rouge, il y a aussi une insensibilité à la douleur avec la cicatrisation. Mais il y a plein de façons aussi, du coup, d'interpréter, en tout cas, cette première, en découvrant, en écoutant cette question, en me la posant moi-même, c'était une question, finalement, du coup, qui est restée un peu sans réponse pour moi. J'ai dû faire quelques petites recherches pour me dire, tiens, mais... Et puis, non pas moi, mais également mon épouse avec moi, qui m'a aidé. Je tiens à rendre à César ce qui est à César, et à Claudia ce qui est à Claudia. Alors, et évidemment, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Oui.
Donc elle est marquée au fer rouge. Et en fait, elle compte, malgré ce que l'esprit pourrait lui dire, elle continue et du coup, après, elle est anesthésiée.
Donc elle est marquée au fer rouge parce qu'elle n'écoute pas ce que l'esprit lui dit, lui convainc, dans sa conscience. Elle sait au départ que ce qu'elle fait finalement, du coup, est contraire. Mais elle persiste et devient anesthésiée. Endurcissement. Intéressant. Question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu dit, pardon, c'est pourquoi est-ce que Paul dit, faut que je rajuste mes lunettes, pourtant, je pense avoir bien lu. Pourquoi est-ce que Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant ? C'était une vraie question. Hein, qui est... Après, j'ai un petit truc à vous lire, comme ça au moins ça fera réfléchir aussi. Parce que tout vient de Dieu. Excellent. Quoi d'autre ? Une attitude de foi, de confiance. Intéressant. D'ouverture. Est-ce que ça va de pair avec le fait de prendre tout comme le fait que Dieu nous a déjà donné ? Quand vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu ? À cause des viandes, à cause des viandes sacrifiées aux idoles. Je vous partage juste la pensée de M. Wright, que je trouve très intéressante. Il y a cette idée centrale qui est qu'il y a un équilibre dans la vie humaine de celui qui croit en Dieu. Le risque pourrait être de rejeter tout ce qui est terrestre en disant « il n'y a de parfait, il n'y a de bon que ce qui est céleste, divin ». L'autre extrême pourrait être de glorifier ce qui est terrestre et d'en faire une idole. En remerciant Dieu, je me situe à la bonne place, car je reconnais qu'il est parfait et qu'il m'a donné des choses bonnes pour en profiter sans qu'elles deviennent une idole. Tout ce qui est extérieur, Paul dit aussi que tout ce qui est extérieur, en fait, du coup, ce que notre chair produit pour plaire à Dieu n'est pas une bonne chose. Donc s'abstenir d'aliments, etc., de se marier. Les prédicateurs travaillent dans la chair. Ah, c'est pour ça qu'ils sont marqués dans la chair. Ah. Donc, les prescriptions de ces faux docteurs sont donc des prescriptions charnelles et non pas spirituelles, car au final, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Finalement, on associe la prière à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu déclare. Dieu déclare que tout est bon, Dieu a dit c'est bon, et quand il a créé l'homme, il a même dit c'est très bon. Donc, j'associe ma prière, mon remerciement, c'est une prière, à ce que Dieu a dit. Donc c'est une soumission à ce que Dieu dit. Et c'est la clé de tout. C'est la clé qui me permet d'éviter de tomber dans un extrême ou dans un autre. Quels sont les points communs et les différences entre faire de l'exercice physique et s'entraîner à rester attaché à Dieu ? Je relis simplement le passage. Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accomplie, si nous nous donnons de la peine et si nous luttons. Les points communs, c'est la rigueur. Discipline. Endurance. Persévérance. Dépassement de soi, joie dans l'effort. Tenir son corps assujetti. Maîtrise de soi. Pardon ? Ça peut être pénible ? Ça peut être pénible. Donc ça, c'est peut-être les différences alors. C'est un point commun ou c'est une différence ? Ça peut être un point commun. S'entraîner à rester attaché à Dieu peut être pénible. Ah, dur, difficile. Il y a une récompense à la clé. Pardon ? La victoire est au bout. Et je progresse. Intéressant. Et quelles sont les différences entre faire de l'exercice physique et s'entraîner à rester attaché à Dieu ? Physique, la victoire n'est pas forcément au bout, mais spirituellement, la victoire est forcément au bout. parce que en Dieu, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. L'exercice physique, c'est pour le temps présent. Et s'attacher à Dieu, c'est pour notre récompense éternelle. Oui, sur les différences. On est limité par notre nature charnelle, alors que spirituellement, en Dieu, tout est possible. Point commun, l'endurance et la persévérance. Tu avais aussi quelque chose à dire ? Parfait. Ah, il faut tempérer ça parce qu'il a dit à peu de choses, mais pas à rien. Parce qu'on porte l'éternité dans un corps. Donc néanmoins, la façon dont on prend soin de notre corps sur la terre est importante. Il n'est pas inutile. Intéressant. On va enchaîner tranquillement. Comment vous entraînez-vous à rester attaché à Dieu ? Comment est-ce que je m'entraîne à rester attaché à Dieu ? En passant beaucoup de temps avec lui, en lisant la parole, en la méditant, dans la louange, dans les communions fraternelles, en aimant mon prochain. En faisant des choix. Et oui, en recherchant ce qui pourrait lui plaire. En voyant Dieu dans tous les détails de ma vie. En lui demandant son avis systématiquement. En comprenant qu'on n'est rien sans lui et qu'on ne peut rien faire sans lui. Et quels sont les buts et les résultats de cet entraînement qu'on peut lire au verset 10 ? Ah, moi j'ai pas le verset 10 affiché. Quelqu'un peut me lire le verset 10 ? Oui, nous travaillons durement et nous combattons.
Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur de tous, surtout de ceux qui croient.
Ah. Quels sont les buts et les résultats alors ? Le salut. Incroyable. Tout à l'heure, ce qui a été partagé, c'était de dire que la victoire temporelle d'un effort physique sur la terre était quand même une belle récompense. Mais le résultat, le but, cette couronne éternelle, c'est le salut. C'est le salut. On enchaîne un petit peu. Quelles instructions l'apôtre donne-t-il à Timothée au verset 11 à 16 ? Que personne ne méprise ta jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète, nous dit la version NBS, avec l'imposition des mains du Collège des Anciens. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Quelles instructions Paul donne-t-il à Timothée ? Veille sur toi-même, sois un modèle, de garder la valeur du sel. Applique-toi. Il y a un encouragement à parler et à mettre en pratique. Il y a un encouragement à avoir un comportement irréprochable. Un encouragement à être un modèle pour les autres croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Lesquels trouvez-vous faciles à suivre ? Et lesquels vous semblent-elles, au contraire, difficiles à appliquer parmi ces instructions ? Pourquoi ? Donc là, ça nous fait réfléchir un peu personnellement. Est-ce qu'on a envie de dire ben moi, c'est peut-être en parole que j'ai du mal à appliquer ces instructions. Est-ce que c'est en amour ? Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir passer un peu plus de temps dessus. Mais c'est bien, comme ça, ça va nous permettre de travailler dans la semaine, personnellement. On va devoir un peu relire, en fait, du coup, 1 Timothée 4, c'est très bien. Quelle mesure pourriez-vous prendre pour renforcer ces points faibles ? Si je vois que je manque d'amour, quelles seraient les mesures que je pourrais prendre ? Si je manque de foi, quelles seraient les mesures que je pourrais prendre ? Si je manque de pureté, quelles pourraient être les mesures à prendre ? Si je manque dans ma conduite, dans mes paroles, si je manque en négligeant le don de la grâce qui est en moi, si je manque à la lecture publique des Écritures, à l'enseignement et à l'encouragement. Le verset 16 nous dit de veiller sur nous-mêmes. Examinons-nous. Lui dit examinez-vous, mais j'ai envie de dire examinons-nous. Dans quelle direction est-ce que j'évolue ? Est-ce que je me sens comme un mécanicien qui se déplacerait au volant d'un vieux taco ? Un professeur de musique trop occupé pour accorder son violon ? Un guide de haute montagne qui aurait oublié d'apporter ses chaussures à crampons ? Dans quelle direction est-ce que j'évolue ? L'égocentrisme est dangereux, bien sûr. Il est vrai que trop de gens ne pensent qu'à eux et croient que le monde entier tourne autour de leur petite personne. Bien sûr, peu d'entre nous sommes concernés par ce problème. Bien sûr. Veille sur toi-même, ou dans d'autres versions, prends garde à toi-même. Ce verset pourrait contenir une forme de menace, mais quand on en comprend le sens, il s'avère en fait libérateur. C'est un encouragement à continuer. Continuons, profitons de la vraie liberté, celle qui consiste à servir Dieu et son peuple. Où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place avec l'aide du Seigneur ? Je vous propose simplement qu'on puisse prier chacun et quelques lignes. Dans quel domaine est-ce que je souhaite grandir et être transformé par son esprit ? Est-ce que ma conscience est marquée au fer rouge ? De quelle manière est-ce que je m'entraîne à rester attaché à Dieu ? Et qu'enfin nous puissions aussi le remercier, lui dire merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés. Merci pour toutes les choses que tu as créées afin que nous puissions en jouir. Et Seigneur, je veux te louer de ce que je